بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Donc on va ouvrir ce cours au sujet du tawhid, c'est-à-dire le monothéisme. Le tawhid qui veut dire croire qu'Allah est unique et appliquer cette croyance, agir en conséquence de cette croyance. Et le mot tawhid, il est tiré notamment du hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous raconte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans le sahih, il nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à la fin de sa vie Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour juger entre les gens et diriger les musulmans et appeler les gens du livre à l'islam. Et il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ. Dans une version, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ. Yuwahidu, c'est le verbe qui vient du mot tawhid, c'est-à-dire qu'ils croient en Allah seul, ou qu'ils unifient Allah dans leurs croyances et dans leurs actes. Ce mot tawhid, on peut aussi le tirer du tafsir des salafs. Quand on dit as-salaf, c'est-à-dire les compagnons du prophète, sahaba, et les tabi'in et tab'at tabi'in, les trois premières générations de l'islam. Lorsqu'ils ont interprété le verset où Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'ils m'adorent, as-salaf on dit, c'est-à-dire لِيُوَحِّدُونَ. C'est-à-dire qu'ils m'unifient dans leur adoration et qu'ils me vouent un culte exclusif. Donc de ces différents athars, c'est-à-dire de ces différents textes religieux, et concentrez-vous pas sur le mouvement qu'il y a autour du cours, mais concentrez-vous sur le cours en lui-même. Ça, laissez ça au staff technique. Concentrez vos oreilles sur le cours en lui-même. Donc ce mot tawhid, il est tiré notamment de ces différents athars. Le hadith de Mu'adh et les paroles de certains salafs qui ont été rapportées sur le verset. Et comme il vous a dit aujourd'hui le frère Ammar, parmi les catégories du tawhid, qui sont au nombre de trois, il y a tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté, et tawhid al-asma'i wa sifat, et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et ces deux sortes de tawhid forment une seule sorte, c'est al-tawhid al-ilmi, c'est-à-dire le tawhid de la connaissance d'Allah. C'est tout ce qui se rapporte à Allah et à connaître Allah. Et la troisième ou la deuxième, selon l'explication qu'on vient de donner, sorte de tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibadah, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Reconnaître qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et vouer ses actes à Allah seul, ses actes d'adoration. Ça, c'est tawhid al-uluhiyya. Donc là, on va parler de deux catégories. Tawhid al-rububiyya, donc le monothéisme ou l'unicité dans la souveraineté, dans l'attribut de al-rububiyya qu'on peut traduire par la souveraineté, ou qui traduisent parfois par la seigneurie, et tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid de la divinité, l'unicité de la divinité. Quant à Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans al-Rububiyya, dans la souveraineté, ça on n'en parle que de façon succincte. Donc Tawhid al-Rububiyya, donc pour signaler, je suis le tertib, c'est-à-dire l'ordre du livre Usul al-Iman, qui est un livre qui a été composé par plusieurs savants à la ville de Médine et qui ont composé un livre sur al-Aqidah et le Tawhid qui s'appelle Usul al-Iman. Donc moi, pour me faciliter la tâche, je suis l'ordre de ce livre. Donc Tawhid al-Rububiyya, on peut le ramener à trois grandes significations. C'est de croire qu'Allah est seul dans cet attribut qui est Ar-Rububiyya. C'est-à-dire c'est le seul Rabb. Donc traduit le seul Seigneur ou le seul Souverain ou le seul Dieu. Et ça implique croire qu'Allah c'est lui le seul Créateur de l'univers, le seul Possesseur de l'univers et le seul qui gère cet univers. Et quant aux preuves de ce Tawhid, elles sont tellement évidentes dans la religion qu'on n'a pas besoin de les citer. C'est-à-dire les preuves tirées du Coran et de la Sunna sur ce Tawhid, elles sont évidentes pour tout le monde. Et il y a aussi des preuves à ce Tawhid tirées de ce qu'on appelle Al-Aql et tirées aussi de Al-Fitra. Al-Aql, c'est-à-dire la raison humaine, elle aussi prouve ce Tawhid. Comment est-ce que la raison humaine prouve le Tawhid? Eh bien c'est parce que la personne qui va regarder et observer en elle-même ou dans la création d'Allah autre qu'elle-même, elle va en déduire que ce monde il a un créateur et il a quelqu'un qui le gère. Comme Allah dit dans le Coran, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, c'est-à-dire dans en vous-même aussi il y a des signes, ne voyez-vous pas? Et Allah dit aussi dans le Coran, il a juré en disant وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, il jure par une âme, neuf, c'est-à-dire une personne, et celui qui l'a façonné. Et Allah ne jure que par des choses qui sont des signes, des grandes choses. C'est-à-dire que dans la façon dont il a façonné l'âme humaine et la personne humaine, il y a un signe, il y a quelque chose d'énorme. Et aussi dans le fait de regarder les signes extérieurs, autres que notre propre personne, il y a des signes pour la raison pour qu'elle déduise cette partie du Tawhid, Tawhid al-Rububiyya. Donc cette partie du Tawhid, la raison, elle peut y arriver par elle-même. Comme Allah, donc je vais vous citer les différents versets qui sont cités ici, comme dans le verset qui dit سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Donc il a dit, nous allons leur montrer nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que c'est la vérité. C'est-à-dire que dans cette création, il y a des signes. Des signes qui te montrent et qui montrent à ta raison que derrière cette création est caché quelqu'un qui l'a créé et quelqu'un qui l'a fait exister. Et aussi un autre verset attire notre attention sur ce sujet en nous disant Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Donc un verset simple qui te résume toute la logique qui amène à l'être humain à croire en, entre guillemets, à croire en Dieu, c'est-à-dire à croire en au Créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'Allah nous dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, c'est-à-dire ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Toute personne qui refuse de croire au Créateur qui est Allah se trouve confrontée à deux autres possibilités qui sont cités dans ce verset. C'est pour ça que le Coran, c'est un grand outil, c'est-à-dire, il est rempli de preuves qui appellent l'intelligence humaine. Et c'est pour ça qu'Allah dans le Coran nous appelle à réfléchir sur ce Coran, puisqu'il est rempli de preuves pour celui qui veut discuter de ces sujets. Donc quand il nous dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » celui qui refuse de reconnaître « Al-Khaliq » il se retrouve confronté à deux autres possibilités. La première, Am khuliqu min ghayri shay, ont-ils été créés à partir de rien? C'est-à-dire qu'il y avait le néant et ils sont apparus comme ça. Donc ceci est impossible dans la raison humaine puisque toute chose qui est devant nous a forcément quelqu'un qui l'a fait exister. Puisque ce monde, il a une organisation et il a des sagesses et il a une certaine beauté, une certaine organisation. Or le néant, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, n'a aucune caractéristique et encore moins de capacité à créer. Donc on ne peut pas avoir été créé à partir du néant puisque le néant c'est rien. Donc la première possibilité, elle est rejetée par ce verset. Am khuliqu min ghayri shay. La deuxième possibilité, c'est que la personne se soit créée elle-même ou que le monde se soit créé lui-même. Et c'est dans la deuxième partie du verset, am humul khaliqun, où sont-ils eux-mêmes les créateurs? Si personne ne les a créés, est-ce que ce monde s'est-il créé lui-même? Mais pour que ce soit possible, il faut qu'avant qu'il se crée, il ait les capacités de créer. Or, avant qu'il se crée, si on rentrait dans cette supposition, avant que la nature elle se crée, elle était Adam, elle était néant. Et le néant n'a pas de qualité. Donc encore moins, il n'a pas de volonté ni de capacité pour agir. Donc comment est-ce qu'il peut créer? Et comment encore pire peut-il se créer lui-même? Puisque le créé et la créateur sont forcément deux choses différentes. Donc, ces deux suppositions rejetées, il reste la troisième, qui est celle qui est ancrée dans ce dont Allah nous a parlé en disant « Fitrat Allahi allati fatara an-nasa alayha ». C'est la nature d'Allah sur laquelle il a créé les gens. Cette fitra dans laquelle Allah a mis la croyance en lui et la croyance au créateur et qui est ancrée au fond de chaque être humain. Même le plus athée des êtres humains, lorsqu'il se retrouve dans une catastrophe, eh ben son cœur et ses yeux ils se dirigent vers le ciel pour chercher un certain secours, pour chercher une guidée, pour chercher une issue. D'où est-ce que ça lui vient alors que sur sa langue il prétend mais croire au Créateur, ça lui vient de cette fitra, cette nature qui est ancrée dans les êtres humains et qu'Allah a placée dans les êtres humains. Et ça nous aide aussi, et on peut en tirer un bénéfice, donc c'est hors du sujet, c'est dans la da'wa avec les non-musulmans. Parce que les non-musulmans qui nous entourent, la plupart d'entre eux ne croient pas au Créateur. Mais sachez que lorsque vous leur parlez, qu'ils ont beau vous faire de beaux discours, au fond d'eux, il y a cette fitra, qu'ils le veuillent ou pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu mauloudin yuladu ala al-fitra » Tout nouveau-né est créé sur al-fitra, c'est-à-dire cette nature saine qui comporte le monothéisme dans ce domaine, le fait de croire au seul créateur. Donc sache lorsque tu parles avec ce genre de personne que parfois c'est pas la peine de trop t'étaler sur le fait de chercher à lui prouver qu'il y a un créateur. Cherche plutôt à lui faire connaître le prophète et les miracles du prophète et le message du prophète, et ça va directement l'amener de l'athéisme à l'islam. Alors que parfois tu peux chercher à perdre du temps pour d'abord essayer de le faire croire en Dieu, pour ensuite le faire croire à l'islam. Alors que lorsqu'il connaîtra le message du prophète, il va à la fois découvrir que c'est un prophète et donc que c'est un prophète envoyé par Allah, qu'il essayait de renier. Donc tout va venir en même temps. Et aussi sache, lorsque tu lui parles en face, que au fond de lui, il est à peu près convaincu de ce que tu es en train de lui dire, quand tu lui parles de Dieu. Et si beaucoup ils s'efforcent à gesticuler pour essayer de renier Allah, c'est justement parce que au fond d'eux, il y a quelque chose qui leur dit qu'il existe. Alors ils essayent de l'enfouer avec des logiques et des paroles et des gesticulations. Donc dis-lui, le simple fait que tu essayes de me dire qu'il n'existe pas me prouve qu'au fond de toi tu sais qu'il existe. Sinon tu ne serais pas en train de me sortir tout ce blabla et toutes ces démonstrations. Donc ça c'est pour Tawhid al-Rububiyyah, qui consiste à croire qu'Allah est le seul créateur de cet univers, Al-Khaliq, le seul possesseur de cet univers, Al-Malik, et le seul gérant de cet univers. Toutes les significations de Al-Rububiyyah reviennent à ces trois points. Ensuite, dans le livre, ils mentionnent le fait que ce Tawhid, cette partie du Tawhid, le fait d'y croire, et même le fait d'en être convaincu ne suffit pas à rentrer dans l'islam et ne consiste pas à un monothéisme complet, c'est-à-dire jusqu'à ce que la personne atteste l'autre tawhid et croit à l'autre tawhid et pratique l'autre tawhid qui n'est que la conséquence de ce tawhid. Puisque si la personne elle croit qu'Allah est le créateur, le possesseur et le gérant de cet univers, ça doit l'amener à reconnaître que c'est lui seul qui reconnaît l'adoration. Et reconnaître qu'Allah c'est lui seul qui mérite l'adoration, c'est une autre partie du tawhid. Tawhid al-uluhiyya. Le tawhid dans, entre guillemets, dans l'aspect divin, dans la divinité ou dans le droit à l'adoration. Ou tawhid al-ibadah. C'est-à-dire le monothéisme dans l'adoration. Vouer un culte exclusif à Allah. Si cette personne ne reconnaît pas ce tawhid-là, l'autre tawhid, tawhid al-rububiyya, le fait de croire qu'Allah c'est lui le seul créateur, ça ne lui servira à rien. Donc l'épreuve à ce sujet, notamment la parole d'Allah qui dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dans la sourate Yusuf, le verset dit la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. C'est-à-dire la plupart des gens, des êtres humains, croient en Allah mais lui associent. Donc regardez comme dans ce verset, Allah a attribué à ces gens une foi, quelque chose qu'il a appelé de la foi en Allah, mais en même temps il a dit ils croient en Allah mais ils sont en même temps polythéistes. Donc quelle est cette foi en Allah qu'ils ont et quel est ce shirk qu'ils ont en même temps? Pour revenir à ce verset, à son explication, on revient à l'explication de nos anciens. Et en premier, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, donc je vais vous lire les interprétations de ce verset. Abdullah ibn Abbas a dit radiallahu anhuma, من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. Ibn Abbas radiallahu anhuma, en parlant des mécréants, et notamment des mécréants donc de l'époque du prophète, parmi les Arabes de Quraysh et autres, il a dit leur foi, c'est que lorsqu'on leur dit qui a créé les cieux, qui a créé la terre et qui a créé les montagnes, ils disent Allah, mais ils sont mushrikin. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être mushrikoun alors qu'ils croient en Allah? Eh bien leur shirk c'est dans l'adoration, c'est-à-dire ils reconnaissent que c'est Allah qui a créé le ciel, la terre et les montagnes, mais ils adorent Allah et ils adorent quelqu'un d'autre avec Allah, plusieurs divinités. Donc retenez bien que leur shirk n'était pas dans ar-rububiyya, dans le fait de reconnaître qu'Allah c'est le seul créateur, mais leur shirk était dans l'adoration. Donc le fait de croire en Allah ne leur a servi à rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de les combattre et de les appeler mécréants et de les appeler mushrikin, c'est-à-dire associateurs et polythéistes, alors qu'ils croyaient en Allah. Ou dans une autre explication, qala Ikrima, donc Ikrima fait partie des tabi'in et des élèves d'Abdullah ibn Abbas. Il a dit tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal ard fa yaquluna Allah fa dhalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghayrahu. Donc la même explication que son cheikh Abdullah ibn Abbas Ikrima a dit: si tu leur demandes qui les a créés et qui a créé les cieux et la terre, ils te disent c'est Allah. Donc voici leur foi en Allah. C'est-à-dire cette foi qu'Allah a mentionnée quand il a dit la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes. Ils ne croient en Allah. C'est quoi cette croyance en Allah qu'Allah leur a reconnu? C'est ce que nous dit ici Ikrima. C'est-à-dire si tu leur demandes qui les a créés et qui a créé les cieux et la terre, ils te disent Allah. Voici leur foi en Allah. Elle est limitée à ça. Et malgré cela, ils étaient déclarés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme kuffar et mushrikin, parce qu'ils associaient dans l'adoration. Wa qala Mujahid radiallahu anhu, imanuhum qawluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna fahadha imanun ma'a shirki ibadatihim ghayrahu. Et Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui fait partie des tabi'in, et qui a dit عرضت المصحف من أوله إلى آخره على ابن عباس ثلاث مرات أقفه عند كل آية أسأل عنها. Mujahid disait j'ai exposé le Coran à Abdullah ibn Abbas du début jusqu'à sa fin trois fois et je le questionnais sur chaque verset. Donc c'est un imam du tafsir. Il a dit leur foi c'est quand ils disent Allah nous a créés et nous pourvoit et c'est lui qui nous fait vivre. Donc il a dit ça, c'est leur foi, et en même temps, ils font du shirk lorsqu'ils lui associent quelqu'un d'autre dans l'adoration. Donc retenez bien que les kuffars de Quraysh qui étaient les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyaient en Allah. Et ils reconnaissaient qu'Allah c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Donc en quoi est-ce qu'ils étaient mouchriquins? Ils étaient mouchriquins parce que leurs adorations, leur culte et leur religion, ils le vouaient à Allah et aussi à d'autres idoles, à d'autres divinités. Et aussi la dernière parole, c'est celle de Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam ibn Zayd. Il a dit, rahimahullah, ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Donc Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam nous dit, il n'y a personne qui adore avec Allah autre qu'Allah, c'est-à-dire qui est polythéiste, sans que en même temps il ne croit en Allah et il sait qu'Allah est son Dieu et qu'Allah est son créateur, son Rab. Donc le Rab, c'est-à-dire son créateur et celui qui le possède, et qu'Allah c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui lui donne. Donc regardez comment ici ce savant nous dit, chaque personne qui adore en dehors d'Allah quelque chose, il sait qu'Allah c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui lui donne. Mais cette personne associe en Allah, associe à Allah en adorant autre qu'Allah. Regardez, et il dit, regardez comment Ibrahim a dit, comme Allah nous l'a cité dans le Coran, il a dit à son peuple, voyez-vous ce que vous adorez, vous et vos pères les plus anciens, c'est-à-dire vous et vos ancêtres, tous sont mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, ou le Souverain de l'univers, c'est-à-dire sauf Allah. Ce qui prouve que son peuple, tout en adorant les étoiles et en adorant d'autres divinités, connaissaient Allah et adoraient Allah. Mais ils adoraient autre que lui. C'est pour ça Ibrahim leur a dit, tous ce que vous adorez en dehors d'Allah sont mes ennemis sauf Allah. Puisqu'ils adoraient Allah et ils adoraient aussi d'autres divinités. Et aussi donc les koufars de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient Tawhid al-Rububiyyah, reconnaissaient qu'Allah est le seul créateur, mais ils étaient des mouchriquins parce qu'ils lui associaient dans son adoration. Et les preuves, elles sont nombreuses dans le Coran. Parmi les preuves, les versets qui disent وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a soumis le soleil et la lune, ils te diront Allah. Donc là, il ne parle pas des musulmans, il parle des non-musulmans de l'époque du prophète. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Et là, dans l'autre verset, il nous dit, si tu leur demandes qui a descendu du ciel de l'eau par laquelle il fait vivre la terre après qu'elle soit morte, ils diront Allah. Donc toujours les koufars de Quraysh. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Dis-leur à qui est la terre et ce qui est dedans, si seulement vous savez. Ils diront, elle est à Allah. Dis-leur, alors pourquoi ne vous rappelez-vous pas? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, qui est le Dieu des cieux et des sept cieux et le Dieu du grand trône, l'Arsh, ils diront Allah. Donc regardez comment même le trône d'Allah, ils le reconnaissaient. Et ils reconnaissaient qu'il y avait sept cieux. Et pourtant, ça ne les a pas rendus ni monothéistes ni musulmans. Ils diront Allah, alors dis-leur, pourquoi ne craignez-vous pas? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. Dis-leur à qui est la possession de toutes choses et هُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Là, je ne vais pas m'aventurer à traduire. Et ils diront Allah. Donc regardez comment ces versets nous prouvent que les mécréants de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient les attributs de Ar-Rububiyyah à Allah. Donc, quel était leur shirk? Leur shirk était dans l'ibada, dans l'adoration, dans le fait qu'ils cherchaient des divinités auprès desquelles ils se rapprochaient et qu'ils aimaient comme ils aiment Allah, pour les prendre comme des intercesseurs entre eux et Allah. Donc c'était des gens qui aimaient Allah et qui voulaient se rapprocher d'Allah, mais tout en adorant Allah, ils adoraient des autres divinités, pour les prendre simplement comme intercesseurs. C'est-à-dire, ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il leur donne de la pluie, ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il les fasse vivre longtemps, ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il leur donne des enfants, ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il leur donne des richesses, rien de tout ça, parce qu'ils savaient que tout ça, leurs divinités, elles en sont incapables, seul Allah en est capable. Mais ils les adoraient pour les prendre comme intermédiaires entre eux et Allah. Et la preuve de tout ça, c'est le verset qui dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est Allah qui atteste dans le Coran de ça. C'est pas une explication wahhabite ou une explication d'Ibn Taymiyyah. Regardez les explications de Mujahid et de Abdullah ibn Abbas. Ce ne sont pas des explications qui ont été inventées soi-disant il y a 300 ans. Ces explications, elles ont pour source le Coran et les explications des Sahaba et des Tabi'in, comme vous venez de l'entendre. Et aussi un autre verset qui n'a pas été cité ici, qui dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur profite pas et qui ne leur nuit pas, c'est-à-dire ça ne leur amène ni bien ni mal. Et ils disent, voici nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc eux-mêmes savaient que leur divinité ne leur ramène ni bien ni mal, mais simplement, ils les prenaient comme intermédiaires en dehors d'Allah. Et ils leur vouaient l'adoration. C'est ça qui les a rendus mushrikis. Pas le simple fait qu'ils pensaient que ces divinités, elles faisaient tomber la pluie ou elles donnaient des enfants. Mais le fait de leur vouer le culte, leur vouer des prosternations, leur vouer des sacrifices, leur vouer des vœux, leur vouer autre acte d'adoration, c'est ça qui les a rendus mécréants. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont été nommés mushrikin. Et regardez comme leur shirk ressemble fortement au shirk qui est pratiqué maintenant dans les pays musulmans. Puisque les gens des pays musulmans actuels, dans malheureusement beaucoup de pays, ils pratiquent exactement le même shirk que les koufars de Quraysh. C'est-à-dire, ils adorent des gens qui sont enterrés dans des tombes, en leur vouant des sacrifices, ou en tournant autour de leur tombe, ou en se prosternant pour leur tombe. Et si tu leur dis c'est du shirk, ils te disent non, ça c'est hubbul awliya, hubbul salihin. Et lui c'est mon intercesseur en dehors d'Allah. Est-ce que ça c'est pas exactement la même parole qu'ils ont dit les koufars de Quraysh? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ça c'est exactement ce que maintenant certains qui s'apparentent à l'islam, ils font dans les pays de l'islam. Ils adorent des gens qui sont enterrés pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Et des fois, leur ibada, elle va plus loin que l'adoration des koufars de Quraysh. Parce que comme on a expliqué, l'adoration des koufars de Quraysh, elle touchait pas à Tawhid al-Rububiyya. Alors que malheureusement maintenant, certaines personnes, leur adoration des tombes, elle va jusqu'à toucher à Tawhid al-Rububiyya. Ils te disent, si on fait pas telle adoration ou telle adoration pour le mort, pour Sidi Foulen ou l'Ouali Foulen ou le Maoula Foulen, il va nous engloutir sous la terre. Des choses que les koufars de Quraysh, ils n'osaient même pas dire sur leur divinité. Ou alors ils disent, si tu frottes tel ou tel tissu à la tombe du Ouali Foulen et tu lui fais un vœu ou un sacrifice, eh ben, tu auras des enfants par exemple, ou tu auras de la chance, ou tu auras de l'argent. Des choses que les koufars de Quraysh, ils n'étaient même pas arrivés à ce point. Alors qu'Allah nous dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit à propos du prophète, dis-leur, c'est-à-dire ya Muhammad, dis-leur, je ne détiens pour moi-même ni bien ni mal. Donc s'il ne le détient pas pour lui-même de son vivant, comment il va le détenir pour toi après sa mort? Et si ça c'est vrai pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en est-il de le maula fulen ou le maula fulen qui n'est pas au grade du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si, et le verset nous dit, et si je connaissais l'invisible, j'aurais acquis beaucoup de bien et le mal ne m'aurait pas touché. C'est-à-dire Allah dit au prophète, dis-leur que tu ne connais pas l'invisible. Alors que les gens maintenant, ils courent aux charlatans et ils leur demandent l'avenir. Alors que le prophète Mohammed, l'homme le plus pieux, Sayyidul Bashar, le chef des êtres humains, et celui qui intercédera au jour du jugement par la permission d'Allah, il ne connaissait pas l'invisible. Donc regardez l'erreur et la manque de connaissance dans le tawhid. Et comment ce tawhid il doit être corrigé. Et il doit être recompris depuis le début. C'est pour ça qu'on fait ce genre de conférence sur le tawhid. Après le dernier point avant de passer à l'autre tawhid, c'est, ils ont mentionné ici les différentes déviances qu'on peut trouver dans Tawhid al-Rububiyyah, pas dans Tawhid al-Uluhiyyah, mais dans la croyance au fait qu'Allah c'est le seul créateur. Parmi donc les déviances à ce sujet, notamment le fait de tout simplement renier al-Rububiyyah, c'est-à-dire renier que ce monde il est un créateur et il est quelqu'un qui le gère. Ou alors renier à Allah certaines catégories de ou certains attributs de al-Rububiyyah, comme le fait qu'Allah gère l'univers ou possède l'univers. Ou alors, attester à Allah un associé. Donc en fait, c'est soit renier une partie de Ar-Rububiyyah, ou soit reconnaître Ar-Rububiyyah et attester à Allah un associé dans ses caractéristiques. Comme croire que l'univers a quelqu'un qui le gère avec Allah. Ou croire que l'univers, il y a quelqu'un qui le possède avec Allah. C'est-à-dire, ils sont en partenariat ou en association. Donc ça c'est une erreur qui touche à Tawhid al-Rububiyyah. Et parmi les caractéristiques de al-Rububiyyah dans lesquelles les gens parfois ils associent, chose que ne faisaient pas les kuffars de Quraysh, c'est penser qu'une créature peut repousser un mal que seul Allah est capable de repousser. Ou peut donner un bien ou repousser un bien que seul Allah est capable de donner ou de repousser. Comme penser qu'une créature peut faire tomber la pluie. Ou penser qu'une créature peut changer le temps. Ou penser qu'une créature elle peut faire revivre les morts. Ou penser qu'une créature elle peut donner des enfants. Tout ça ça fait partie de Ar-Rububiyyah. Et même les mécréants de Quraysh ne pensaient pas ça de leur divinité. Donc le deuxième chapitre c'est Tawhid al-Uluhiyyah. Al-Uluhiyyah c'est-à-dire la divinité, le droit à être adoré. Et on peut retirer ça du tafsir de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sur le mot Allah. Il disait Allah dhul uluhiyyah wal ubudiyyah, ou plutôt dhul ilahiyyah wal ubudiyyah. C'est-à-dire Allah celui qui a comme caractéristique, c'est celui qui a comme caractéristique al-Uluhiyyah. C'est-à-dire, il a toutes les caractéristiques du divin, toutes les caractéristiques de la divinité, donc parmi ses noms, ses attributs, et aussi Ar-Rububiyyah, et il a Al-Ubudiyyah, donc le droit à l'adoration. Et c'est un synonyme de l'Uluhiyyah. Donc ça vient du mot Al-Ilah. Al-Ilah en arabe qui vient du mot Alaha, qui est un synonyme du verbe Abada. Donc Al-Ilah c'est Al-Ma'boud, c'est-à-dire la chose qui est adorée. Donc quand on dit La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah. Quelqu'un peut dire c'est contradictoire avec le fait que fil waqi', c'est-à-dire dans la réalité, je vois des choses qui sont adorées en dehors d'Allah par les gens. Et toi tu dis qu'il n'y a rien qui est adoré. Le sens c'est pas ça. Le sens c'est, il n'y a rien qui est adoré de bon droit. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Comme Allah dit, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ أَلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Leur aliha, c'est-à-dire leur divinité, qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ne leur ont servi à rien. Donc Allah a appelé les divinités qu'ils adorent aliha, divinité, au pluriel. Et pourtant nous on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire ce sont des divinités pour ceux qui les adorent, dans la croyance de ceux qui les adorent, ce sont des divinités. Mais la seule divinité réelle qui mérite vraiment d'être adorée, c'est Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. C'est pour ça, pour l'expliquer, on dit la ilaha haqqun illallah. Il n'y a de vraie divinité où il n'y a nul qui est adoré de bon droit, où il n'y a nul qui mérite d'être adoré qu'Allah, si ce n'est Allah. Et ça, tawhid al-uluhiyya, avec la répansion de ce qu'on appelle ilm al-kalam, après les trois premières générations bénies de l'islam, il faut savoir que ilm al-kalam, c'est-à-dire la science de la spéculation, qui est héritée des sciences, si on peut appeler ça des sciences, mais plutôt des spéculations grecques, notamment d'Aristote, et donc des musulmans, ils ont fait revivre l'héritage d'Aristote pour parler sur la religion. Donc ils ont voulu faire une sorte de cocktail entre l'islam et la philosophie. Et ces sciences-là, elles ne connaissent du tawhid et de la ilaha illallah que le fait de dire que ce monde, il a un seul créateur, c'est tout. C'est pour ça que tu les vois dans leurs livres qui parlent du tawhid. Le livre, il fait 300 ou 400 pages, il ne te parle que de ça. Le fait qu'Allah, il est unique comme créateur, il est unique comme gérant de l'univers et autre encore. Mais jamais ils font allusion à tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, le monothéisme, le fait de vouer un culte à Allah seul. Eh bien, la répansion de ces sciences, si on peut appeler ça des sciences, ou plutôt de ces pratiques et de ces croyances, les sciences de la spéculation, dans le monde musulman, et notamment la répansion de ce qu'on appelle al-asha'ira dans le monde musulman, ou al-maturidiyya, a fait que ils n'ont concentré les musulmans que sur cette partie du tawhid. Ce qui a fait que l'autre partie du tawhid, qui est la pulpe du message de tous les envoyés d'Allah, et la priorité du message de tous les envoyés d'Allah, s'est dissipée dans la communauté musulmane au fil des siècles. Et donc, moins on a donné d'importance à ce tawhid-là, le tawhid dans l'adoration, plus les contradictions à ce tawhid, c'est-à-dire les pratiques et les croyances qui entrent directement en contradiction avec ce tawhid, ou qui sont des moyens pour arriver à ce qui contredit ce tawhid, se sont répandus dans la communauté musulmane. C'est-à-dire à cause des mauvaises compréhensions du tawhid, et de fixer le tawhid seulement sur le fait de croire en un seul créateur de l'univers, chose à laquelle croient déjà les juifs et les chrétiens, et beaucoup et la plupart des êtres humains, eh bien, concentrer le tawhid que sur ça, ça a fait réapparaître et se répandre au fil des siècles les erreurs dans tawhid al-uluhiyya, comme l'adoration des tombes, la vénération des hommes saints, la vénération des mashayikhs, à tel point que tu vois le cheikh, il est là, et le disciple, il vient, il se prosterne devant lui, et quand il quitte la pièce, il la quitte en reculant, parce qu'il ne doit pas tourner le dos au cheikh, ou alors il croit que le cheikh, il connaît ce qu'il y a dans son cœur, et il voue au cheikh des sacrifices, des vœux, etc. Et un amour qui n'est dû qu'à Allah Azza wa Jal. C'est à cause des mauvaises compréhensions dans cette partie du tawhid. Donc les preuves, premièrement, al-adilla, c'est-à-dire les preuves de tawhid al-uluhiyya, qui est le fait d'unifier Allah, ou de considérer qu'Allah est le seul qui a le droit d'être adoré, et d'appliquer, c'est-à-dire de vouer son culte à Allah seul. Donc le Coran et la Sunna ont divers moyens de prouver ce tawhid, notamment les ordres. C'est-à-dire Allah nous ordonne ce tawhid, comme dans le verset qui dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum » وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Si on regarde celui qui prend le Coran de son début, le premier ordre à l'impératif qu'il va trouver dans le Coran, c'est ce verset-là. C'est quoi? C'est l'ordre d'adorer Allah seul. اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Mais un point intéressant dans ce verset, c'est le verset suivant. Quand ici il nous dit, ô vous les gens, c'est un appel à l'humanité entière. Adorez votre Dieu, Rabbakum. Rabb, on peut aussi le traduire par le Dieu, parce que Rabb, quand il est cité seul, c'est un synonyme de Ilah. Donc adorez votre Dieu, qui vous a créé, ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous ayez la piété. Donc regardez comment Allah a dit, adorez votre Dieu qui vous a créé. C'est comme s'il nous disait, puisqu'il vous a créé, il faut l'adorer. Donc Tawhid al-Rububiyya, le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, c'est le tremplin vers Tawhid al-Uluhiyya. Toute personne qui croit qu'Allah est son créateur doit forcément reconnaître qu'il est le seul à être adoré et doit l'adorer. Et le verset suivant continue. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un toit. Wa anzala minas-samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas-samaraati rizqan lakum. Et celui qui a fait descendre du ciel de l'eau par laquelle il a sorti des fruits qui sont une subsistance pour vous. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. C'est-à-dire, ne donnez pas des égaux à Allah dans votre adoration comme vous le faites alors que vous savez. Que vous savez quoi? Que vous savez que c'est lui qui vous a créé et qui a créé la terre et qui l'a créé pour vous et qui vous a donné les fruits, etc. et qui a fait tomber du ciel de l'eau. Comme vous savez ça, eh bien vous devez l'adorer seul et ne pas lui donner d'associé dans votre adoration. Et si vous observez le Coran, eh bien le Coran il est rempli de ce genre de versets où Allah nous montre qu'il est unique à créer, qu'il est unique à faire vivre, à faire mourir, etc. et donc on doit l'adorer seul. Et l'autre verset qui dit وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ça c'est dans Ayatul Huquq, un verset qui nous parle de des droits des gens. Parce qu'après il continue en disant وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance envers les parents et envers les proches, et etc. Et Allah a commencé ce verset avant de parler de la relation avec les créatures. Il a mis avant ça son droit qui est l'adoration. Il a dit et adorez Allah et ne lui associez rien. C'est-à-dire ne lui associez rien dans son adoration. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Donc regardez les moyens linguistiques à chaque fois différents. Des fois c'est un ordre. Là il dit, il a décrété que vous n'adoriez que lui. C'est comme la ilaha illallah. Il n'y a d'adoré qu'Allah. Ça, à chaque fois ça ressemble. On renie le fait qu'il faut associer ou qu'il faut adorer quelque chose sauf Allah. Et aussi le verset qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Il est une preuve de ce tawhid. Puisqu'il nous montre que ce tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration, il est la sagesse cachée derrière la création des djinns et des humains. Et aussi, parfois, en montrant, le Coran, parfois, pour nous appeler à ce tawhid, nous montre qu'il est le fruit et le but de l'envoi des messagers. Comme les versets qui nous disent, par exemple ici, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque peuple, à quelque époque ou quelque endroit que ce soit, dans les peuples d'avant, ils ont reçu un messager. Nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorez Allah et écartez-vous du طاغوت. Donc vous observez que c'est pas juste adorer Allah. C'est adorer Allah, mais seul. Adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Tawhid, c'est tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Donc c'est le tawhid. C'est le tawhid dans l'adoration. Allah nous montre dans ce verset qu'il a envoyé tous les messagers par et pour ce tawhid-là. Et l'autre verset qui dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Restez concentrés sur moi, pas sur l'ordinateur. Le verset qui dit, il n'y a pas de messager que nous avons envoyé avant toi sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a de Dieu, c'est-à-dire de divinité que moi, c'est-à-dire Allah, alors adorez-moi. Donc tous ces versets nous montrent que c'est la pulpe du message de tous les prophètes. Et le but de l'envoi de tous les messagers, c'était d'appeler les êtres humains à adorer Allah seul et de ne pas associer à Allah dans leur adoration. Ou à le verset aussi qui dit يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Ce verset qui nous dit, il envoie les anges avec Ar-Ruh. Ar-Ruh, ça on peut traduire l'esprit ou la révélation, c'est-à-dire les choses qui amènent la vie. Pourquoi le Coran il a été appelé Ruh? Parce que c'est ça qui donne la vie réelle aux êtres humains. Donc il dit que nous envoyons les anges avec Ar-Ruh, pardon, il envoie, c'est-à-dire Allah envoie les anges avec Ar-Ruh par son ordre, vers qui il veut parmi ses créatures, c'est-à-dire comme prophète, en leur disant, avertissez qu'il n'y a de divinité que moi, alors craignez-moi. Donc cela montre que le but de la révélation, le but pourquoi les anges descendent de la part d'Allah pour révéler aux gens et révéler aux prophètes, c'est ça. C'est adorer Allah seul et ne rien lui associer. Lui vouer la religion exclusive. D'autres versets, par exemple, nous disent الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِغُمْ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ce verset nous dit, ceux qui ont eu la foi, amen, et qui n'ont pas habillé leur foi par de l'injustice. L'injustice ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué comme un shirk. C'est-à-dire, ils n'ont pas habillé leur foi par quelque polythéisme. C'est-à-dire leur foi est pure, tawhid. Ceux-là auront al-amn, c'est-à-dire la sécurité, wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là sont les bien guidés. Donc dans ce genre de versets, Allah nous montre, et ce genre de versets sont nombreux dans le Coran, et c'est une des façons par lesquelles le Coran nous appelle à ce tawhid. C'est nous montrer le mérite des gens de ce tawhid. Comme ici il nous dit, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas entacher leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire par quelque associationnisme. Ceux-là auront l'âme, c'est-à-dire ils auront l'âme au jour du jugement. Ils seront préservés et ils seront en sécurité. Et ils sont bien guidés ici-bas. Donc parfois le Coran nous appelle à ce tawhid en nous montrant, en nous parlant des gens de ce tawhid et en nous montrant leur place et leur récompense. A l'inverse, parfois, le Coran nous appelle à cette catégorie de tawhid en nous montrant les autres, ceux qui ne sont pas de ce tawhid. Comme les versets qui disent par exemple « إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer et les injustes n'ont personne pour les secourir. Donc ça c'est la récompense de qui? Celui qui est associé à Allah. C'est-à-dire celui qui a corrompu cette partie-là du tawhid. Il a adoré quelqu'un d'autre avec Allah. Ou alors le verset qui dit وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Ne mets pas avec Allah une autre divinité. Donc divinité toujours dans le sens de quelque chose que tu adores. Car tu serais jeté en enfer, humilié et blâmé. Donc ça nous montre là le destin et la place de ceux qui ont contredit ce tawhid. Donc ça nous appelle à l'apprendre et à le pratiquer. Et aussi dans les hadiths on trouve des preuves à ce tawhid. Donc on continue demain inshallah ta'ala. Wa nas'alullah ta'ala an yaj'alana muwahhidin mukhlisina lahu ad-din wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi'a wal 'amala as-salih. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.